Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. La crise, moteur d'un possible renouveau démocratique, on en parlera avec nos invités, le philosophe Jean-Luc Nancy et le journaliste Jean-François Boutor. Ensemble, ils signent chez François Bourin édition Démocratie, Hic et Nunc. Nous en parlerons à partir de 12h55. Donc, de quel renouveau, comment refaire démocratie ensemble. Mais d'abord, deuxième invité de cette semaine, Paris Photo. Après le photojournaliste Yann Morvan hier, une photographie plus artistique mais non moins politique, celle de l'américaine Ayanna V. Jackson. Remarquée pour ses autoportraits performance, elle se glisse dans le corps de femmes noires et interroge leur représentation à travers les époques. Représentée en France par la galerie Baudouin Lebon, aux États-Unis par la galerie Marianne Ibrahim, elle a choisi de présenter ce mois-ci à Paris Photo sa série Take Me to the Weaver, The Water, Par River. Ayanna V. Jackson est notre invitée sur France Culture. Écoutez tout de suite.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bonjour à vous, Ayanna V. Jackson.
Hello.
Bonjour et bonjour à votre voix française, Pascal Fougère, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous incarnez tous les personnages que vous photographiez, Ayanna V. Jackson, en mettant votre propre corps au service d'un propos, d'une recherche. Vous en changez aussi la nature, indirectement, corps artistique et corps politique. C'est un dédoublement de personnalité à travers ces photos.
The work for me... has always been,
alors le travail pour moi a toujours été double, duel en fait, dans ses objectifs. D'un côté, je m'intéressais à ma subjectivité personnelle, mon corps propre, et également en fait les croisements avec tous les problèmes liés au corps noir en général. Et je trouvais bien sûr que beaucoup de ces questionnements m'affectaient aussi, directement ou indirectement. Donc quand il s'est agi de créer mes pièces, je dirais que d'une certaine manière, je suis rentrée en fait dans le travail avec mon propre corps, de manière à rentrer dans ce dialogue, dans ce débat. Hein, parce que je pense que si j'avais introduit un autre corps... Hein, il n'y aurait pas eu vraiment d'intervention. J'aurais d'une certaine manière répété un certain regard artistique et en même temps une certaine violence dans les œuvres dont je peux parler un petit peu plus loin. Mais ça me semblait problématique en fait. Donc pour moi, au moment de commencer à travailler, j'ai pensé qu'il était plus facile d'utiliser mon propre corps. Et c'était aussi une idée très particulière. En raison, bien sûr, des questions politiques auxquelles je m'intéresse.
Aujourd'hui, ça reste plus facile ou c'est une contrainte parfois ?
It is, I would say that it's very difficult.
Je dirais que c'est très difficile. C'est sans doute plus difficile sur l'aspect post-production et présentation. Lorsque je fais les œuvres, c'est quelque chose qui peut être plutôt amusant entre le fait de se costumer, la création des scénarios, la mise en scène. Ça vous garde très, très occupé, même si je m'intéresse à des images problématiques, puisque bien sûr, vous le savez, j'utilise des références photographique et je me suis intéressée dans mes premières œuvres à des photographies ethnographiques du 19e siècle et donc certaines des photographies que j'utilise sont des photographies un peu difficiles à regarder. Mais je crois que quand on est en train de travailler ou faire d'une œuvre, on ne pense pas à ça, on réfléchit aux aspects techniques d'abord. Et c'est plus tard en fait, lorsque je montre mon travail, lorsque je l'expose, lorsque je défends, que les difficultés arrivent. Parce que, effectivement, là, ça m'amène à faire des recherches, je dirais, dans ma propre subjectivité, avec des choses qui sont plus personnelles. Et ce que je montre à travers mon travail, donc d'une certaine manière, ça fait remonter beaucoup de questions pour moi sur lesquelles je dois m'exprimer. Et donc, c'est sans doute la partie la plus difficile, oui.
Quelle a été la première photo ? Comment est né ce projet que vous avez décliné depuis, projet dans lequel vous interrogez, on le disait, à la fois la photographie et la peinture du 19e et du 20e, puis aujourd'hui aussi les mythologies, et notamment la mythologie africaine avec des personnages plus imaginaires. On va y revenir. Comment, quelle a été la première photo que vous avez choisi de réaliser?
The first, to be clear,
Claire, c'est la trajectoire du travail qui vous intéresse, c'est-à-dire cette première...
Donc c'est exactement ça, voilà, la trajectoire, comment du 19e au 20e, on est arrivé aux mythologies d'aujourd'hui. Le
premier travail avec lequel j'ai commencé à interroger l'histoire de la photographie et le corps noir, c'était en 2013-2014, alors que j'étais à Paris. Je travaillais sur un projet qui s'appelait Pornographie de la pauvreté. Donc, je travaillais aussi sur une autre série qui s'appelait L'impulsion archivique ou archivistique. Et donc, il y avait... un travail qui m'avait très intéressé, qui était l'invention du sauvage. Et à ce moment-là, c'était en fait cette exposition et on parlait beaucoup de la déconstruction de photographies ethnographiques. Et j'ai donc décidé de regarder un certain nombre d'œuvres qui étaient exposées et notamment des photographies de la collection Walta et de la collection Darling Cronin en Afrique du Sud. Et c'était ça, les photographies sur lesquelles j'ai travaillé. C'était des photographies qui donc allaient de photographies prises en Afrique et donc très ethnographiques, mais des photographies qui avaient été prises ici au tournant début du XXe siècle, hein, pour notamment ces foires où étaient exposés en fait les Africains. Et ce qui m'intéressait aussi particulièrement, c'était les photos faites pendant les zoos humains qui étaient montrées. Et ce qui m'intéressait, c'était la théâtralité de ces images. Parce que quand on interagit avec ces images, on pense que ce sont de véritables documents. On a l'impression aussi de regarder en fait quelque chose qui est une certaine forme de réalité, une représentation de la réalité, mais en raison de la technique photographique à l'époque, c'était évidemment presque impossible de prendre en photographie une véritable situation, une véritable scène. Donc il y avait tout un travail, bien sûr, de production de ces images, hein, des zoos humains, mais également il fallait imaginer effectivement tous les missionnaires, tous les photographes qui étaient partis en expédition en Afrique, par exemple, hein, et une fois de plus, hein, pour arriver à prendre les gens en photo, bien sûr, il y avait tout un travail à faire en raison des contraintes techniques de l'époque. Et donc je me disais, si on doit apprendre quelque chose de ces gens à partir de ces photographies, quel est le rôle du travail en fait de montage, quel est le rôle du travail de théâtralité, et peut-être que c'est quelque chose qu'on doit interroger au lieu de recevoir ces images de manière passive. Et donc c'était tout un ensemble en fait d'œuvres où je mettais mon corps et où je demandais aux gens qui voyaient mes photos de s'interroger par rapport à leurs propres stéréotypes, hein, et tout ce qui pouvait être aussi associé avec une hypersexualisation et comment ça avait pu amener à la construction d'une mythologie de la femme noire et de sa sexualité, hein, cette hypersexualisation. Donc du coup j'ai commencé à regarder le rôle de la photographie dans la création de ce stéréotype
et
comme une manière donc de déconstruire le stéréotype.
Voilà, et ça a donné Poverty Pornography, cette série que vous évoquiez du début des années 2010, 2011, 2013, où vous interrogiez le misérabilisme des photos, des clichés, des représentations de l'Afrique aujourd'hui et notamment dans les médias. Mais aussi Madonna dilatée ou encore Black Madonna tabloïde, où vous interrogiez ou renversiez les stéréotypes. Ça a été le cas pour le Black Madonna tabloïde, des nounous ou des femmes noires, des femmes blanches adoptant des enfants africains. Là, cette fois-ci, c'était des femmes noires qui adoptaient des enfants blancs. Madonna dilatée qui interrogeait pour cette série-là plutôt la tradition des nounous noirs et donc cette servitude domestique contemporaine que l'on peut retrouver aujourd'hui. On va prendre un autre exemple concret de l'une de vos photos qui a fait le tour aussi des représentations. Cette photo de Lucie, inspirée du tableau Portrait d'une femme noire de Marie Guillemine Benoît, peint en 1800. Un sein nu, une grâce, un turban blanc qui cache des cheveux. L'historienne d'art Anne Lafont donnait récemment son interprétation de cette peinture au micro de Jean Deloisy.
À mon avis, comme le disait un petit peu Isole tout à l'heure, c'est polysémique. C'est-à-dire, je pense que ce sein est quand même renvoie aussi à la fonction de la nourrice, qui est très souvent celle des femmes noires oui. dans les familles justement coloniales blanches qui pouvaient donner leur enfant
à nourrir.
On le voit apparaître
dans des tableaux de Monet, par exemple, les jeunes femmes, les femmes noires qui accompagnent les enfants des familles.
Absolument, mais aussi la nourrice au sens plus littéral au XVIIIe oui. siècle, où elle donne le sein quand même oui. et nourrit des enfants blancs qui ne sont pas les leurs en l'occurrence. Donc ce sein, à mon avis, a plusieurs fonctions. Par exemple, pour signifier l'esclavage, souvent la poitrine est en entier découverte, c'est-à-dire que les femmes esclaves, même dans des milieux d'ailleurs africains, sont dénudées de toute la partie haute finalement de leur corps. Donc un seul sein, c'est quelque chose qui joue sur plusieurs registres. Et c'est vrai qu'en 1800, au moment de la Révolution française, ça peut être aussi quelque chose qui est vu d'abord... Ça pourrait évoquer aussi les Amazones. Enfin, il y a vraiment une polysémie de ce sein et qu'il ne faut pas réduire justement à quelque chose qui serait juste une exposition ou une invite pornographique. Je pense que ça n'est pas du tout de cet ordre-là. Et son visage est extrêmement distingué. Je trouve même qu'il y a dans une réserve dans son visage, dans son regard, qui montre que elle est complice de cette pose.
Et vous, comment vous le regardez, ce tableau, Ayana V. Jackson?
I see when I first began to work with Portrait de Négresse.
Alors, quand j'ai commencé à travailler sur Portrait de Négresse, ouais.
I was actually more interested in what
J'étais
I understood to be
plus intéressée par ce que je comprenais comme une espèce de polémique sur ce genre d'œuvre, quelque chose qui faisait que cette femme était vue comme un portrait qui alors était aussi réservé une pose qui était plutôt celle des femmes blanches et des femmes aristocratiques. Et ça m'interrogeait d'avoir une femme, un portrait de femme noire si réservé, et ce que ça voulait dire. Et si on parle du sein dénudé, je dirais que non, j'ai jamais effectivement pensé que ce sein était une représentation de la pornographie. C'était plutôt l'opposé. Et je crois qu'une fois de plus, ça nous renvoie.
What's the word I want to use? This kind of disaccord between
ce désaccord entre ce que l'Occident comprend par la nudité aujourd'hui et ce comment elle pouvait être vue à l'époque. Et ce sein dénudé, pour moi en fait, n'est pas une invite à une sexualisation quelconque. Hein. Mais si on parle donc effectivement de ces nourrices dans Madonna dilatée, comme vous le dites, je m'interroge à comment les femmes noires étaient utilisées comme objet de service. Voilà. au service de la richesse blanche. Et pour moi, une fois de plus, je dirais que plus avec Madonna de Latte qu'avec Lucie, ce qui m'intéresse, c'est une fois de plus demander aux gens qui voient mes œuvres comment on a objectivisé ou comment on a fait de ces femmes noires des objets. Et parce que est-ce qu'on se sent mieux quand on les voit servir? Qu'est-ce que ça signifiait pour les femmes noires d'être les personnes les plus importantes dans la vie de ces enfants, hein, donc plus importantes quelque part que des nourrices blanches en fait, hein, qu'est-ce que ça signifiait en fait d'avoir ces femmes qui passaient plus d'heures avec les enfants que leurs propres parents, et aussi qu'est-ce que ça faisait que d'une certaine manière d'avoir des femmes qui étaient écartées lorsque les enfants pouvaient bouger en fait de manière plus libre. Je ne dis pas que les femmes noires ne devaient pas travailler comme nourrices, mais c'est plutôt interroger en fait le corps comme donnant un certain confort à un certain moment, alors que quelque part ces femmes ne sont pas dans une posture de confort par rapport à leur corps dans la société.
Comment la peinture hier, la photographie aujourd'hui participe et contribue à la construction à la fois des imaginaires et des identités? À Chicago, nous avions rencontré le peintre Kerry James Marshall, qui a introduit, lui, des figures noires là où elles n'avaient pas leur place avant lui, avant sa peinture, dans la tradition occidentale, en détournant les codes de la beauté artistique et ceux de la Renaissance jusqu'à l'abstraction américaine. Il essayait d'insérer ces figures dans les silences, dans les absences de ces œuvres d'art. Qu'est-ce que l'art ? Écoutez sa définition.
Pour moi, le fait que j'utilise un personnage noir comme sujet de mon tableau, d'un côté, c'est une sorte de réaction contre le fait que le sujet noir n'ait jamais occupé l'espace du désir dans un sens idéal, principalement dans la tradition artistique de l'Occident. Ce n'est pas notre tradition. Nous ne l'avons pas développée. Nous n'avons pas pris part à son développement de façon dynamique. Ça n'a jamais été censé nous représenter. Mais si nous perdons cette capacité de nous représenter dans un sens idéal, alors à ce moment-là, on a perdu une certaine capacité d'exprimer notre humanité complète en tant qu'êtres humains. Parce que c'est une des capacités des êtres humains. C'est ça dans quoi ils sont investis, cet investissement dans leur désir, et dans leur désir d'être vu, d'être connu, d'être aimé, de ce qu'on s'occupe de nous et qu'on fasse attention à nous. Et si on ne le fait pas pour nous, à ce moment-là, on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un d'autre le fasse pour vous.
Voilà cette réintroduction du sujet noir au centre du désir, au centre du regard aussi. Pour vous aussi, l'art a ce pouvoir, c'est le pouvoir de transformer les imaginaires, le pouvoir aussi de prétendre à une représentation idéale.
Yes,
oui, tout à fait. L'art est incroyablement puissant. Je crois qu'il est puissant dans sa capacité à agir sur le changement, la manière dont on se pense, la manière dont on pense les autres, ou dont on se pense les uns les autres. Mais je crois que il a aussi une nature qui peut être utilisée et manipulée pour une certaine propagande. Et je crois que ce que Kerry James Marshall interroge, et ce que j'essaye aussi d'interroger dans mon travail, c'est l'absence du corps noir, et dans une perspective subjective, c'est-à-dire c'est la question de nous-mêmes racontant notre propre histoire, alors que l'art occidental des siècles antérieurs nous a a totalement façonné la manière dont le reste du monde comprend nos corps noirs.
If you look at,
et si vous regardez les œuvres contemporaines des artistes africains ou des artistes afrodescendants d'autres continents ou des Américains, vous voyez qu'il y a tout un échantillon d'idées, des idées complexes et un dynamisme aussi qui interroge comment on a parlé de nous, comment on parle de nous dans nos œuvres. Et évidemment, l'absence de nos travaux dans la conscience collective de cet art, comment les représentations noires ont été ont circulé dans le monde. Et ce n'est que récemment, je dirais, qu'il y a beaucoup de lumière qui est portée sur ce genre d'œuvre. Je ne crois pas que c'est que l'art contemporain ou que l'art que l'on fait nous sur nous était quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Je crois tout simplement que ça n'attirait pas le regard du monde occidental. Hein. Et je crois que voilà, que l'Occident était peut-être plus préoccupé et plus intéressé par la manière dont il voyait notre corps, hein, plutôt qu'intéressé par notre perspective à nous. Et donc là, je crois qu'on a renversé en fait cette tendance et que le débat maintenant se place ailleurs. On casse une part de cette propagande qui, en tout cas, était quelque chose qui habitait beaucoup de ces œuvres d'occidentaux sur les corps noirs.
Voilà, c'est à la fois un travail de mémoire à travers ces archétypes, un travail aussi sur le présent par le biais de la fiction avec vous, Ayana V. Jackson. Vous êtes encore notre invitée pour quelques minutes jusqu'à midi et demi. Dans l'actualité musicale, Blue World, on voulait vous faire écouter quelques notes de cet album inédit et oublié de John Coltrane, ressorti le mois dernier sur le label Impulse. Votre exposition, Ayana V. Jackson, s'appelle Take Me to the Water, inspirée probablement par cette chanson de Nina Simone. Ici donc, quelques notes du John Coltrane Blue World, des relectures de ses œuvres enregistrées en 64 par le saxophoniste à la demande d'un cinéaste pour un film, morceau composé initialement celui-ci, Blue World, par Harold Arlen, Out of This World, que le saxophoniste a repris et revisité, là encore, à sa manière. C'est une des photos qui a été choisie pour incarner, illustrer cette 23e édition de Paris Photo qui s'ouvre demain. Celle d'une femme coiffée d'une multitude de peignes, vue de profil, une photo d'elle, de cette artiste, puisque comme vous, Zanele Muoli est à la fois participante et créatrice de ces images. La Sud-Africaine qui milite aux côtés de la communauté LGBTI et de la minorité lesbienne en Afrique du Sud, victime selon elle de violences. Vous connaissez, j'imagine, son travail, puisque vous vivez entre Johannesburg, Paris et New York aujourd'hui, Ayanna V. Jackson. Est-ce que vous vous considérez comme elle, à la fois comme une messagère et comme une activiste visuelle?
Zenele Moholy est une amie chère, enfin je ne devrais pas dire ça comme ça, ça fait de nombreuses années qu'on se connaît. Et je dirais oui, que je me considère effectivement artiste et militante, et je crois que mon travail artistique est ma forme de militantisme. Et je dirais que la photographie est pour moi le moyen le plus efficace de communiquer. Hein. Voilà, je ne sais pas si je peux travailler sur d'autres médiums ou d'autres. La question, c'était pas en fait de devenir un artiste, c'était que la photographie était pour moi le moyen le plus rapide en fait de communiquer le message.
À Paris Photo, il y aura beaucoup d'autres artistes du monde entier, et notamment plusieurs femmes photographes américaines comme Jane Evelyn Atwood, Suzanne Meselas, Nancy Burson, dont les travaux seront donc présentés à Paris en ce moment aussi à l'occasion du mois de la photo. Est-ce qu'il y a dans ce monde encore très masculin de la photographie, aux États-Unis notamment, une solidarité entre femmes photographes?
Yes, I would say that I'm super excited to walk around Paris Photo.
Je dirais oui, en fait, hein, et je trouve ça très, je suis très excitée à l'idée de traverser les allées de Paris Photo et de voir des œuvres de femmes qui travaillent, hein, voilà, je pense que on les met en avant, hein. Les femmes ont travaillé de tout temps, mais là, on s'intéresse davantage à leur travail. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire. Pour d'une certaine manière corriger les collections qu'il y a dans les musées, dans les institutions, faire rentrer davantage de femmes. Mais je crois que c'est effectivement un moment très important pour la présence en fait des femmes artistes dans le monde. Hein? Mais il y a beaucoup de travail encore à faire. Hein? On ne peut pas se reposer encore.
Merci beaucoup à vous, Ayanna V. Jackson. Vous avez ouvert cette discussion en parlant de l'échange que vous avez souhaité créer entre vous, votre propre questionnement sur votre identité et les personnes que vous incarnez, représentées à travers vos photos. Il y a aussi un échange qui se crée entre le regardeur qui voit vos photos, qui pourront les voir à Paris Photo durant cette édition qui s'ouvre demain et qui se clôt dimanche. Parce que la plupart du temps, vous regardez le public droit dans les yeux, comme pour nous interpeller. Et avec des réceptions qu'on imagine assez différentes, on n'aura pas eu le temps d'en parler, entre Johannesburg, Paris, Milan, Tokyo, Bamako, encore New York et Chicago, de vos photographies. Un grand merci à vous d'avoir été avec nous. Et merci à Pascal Fougère pour sa traduction. Merci.